Nous passons à un dossier important, lourd, mais Vitré se doit, sur le problème de l'environnement et du changement climatique, d'atteindre les objectifs que nous fixe le gouvernement. D'où l'importance que chacun se sente mobilisé sur ce dossier. Alors, Nathalie, si tu veux présenter, puis après...
Alors oui, on va donc proposer au vote la révision du plan climat air et énergie du territoire. Donc en fait, je vous rappelle que c'est l'outil de coordination de la transition énergétique du territoire. C'est un document cadre en fait qui fait suite à de nombreuses réunions et ateliers avec les partenaires du territoire et qui a été mené aussi avec l'appui du bureau d'études Intermenso pour cerner les principaux enjeux du territoire et de fixer les objectifs pour y répondre. Alors, on va vous présenter, je vais laisser M. Lecuyer vous présenter le PCEET. Donc, on va vous présenter les objectifs et sa gouvernance. On va faire un bilan du premier PCEET. On va aussi vous présenter le diagnostic du territoire, les principales vulnérabilités et les enjeux d'adaptation au changement climatique, la stratégie et le plan d'action du PCEET, l'évaluation environnementale, et le calendrier et les prochaines étapes. Donc je vais laisser M. Lecuyer présenter les objectifs. Et puis c'est un échange, hein, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà, merci.
Oui, donc pour rebondir, la révision du PCAET est engagée maintenant depuis un an et demi. Vous avez là un certain nombre de dates, de différentes rencontres, réunions, copiles, séminaires, ateliers auxquels un bon nombre d'entre vous ont participé à un moment ou à un autre. Nous arrivons maintenant au mois de décembre à la phase approbation de cette révision. Le travail n'est pas tout à fait terminé. Vous verrez en fin de diaporama les quelques étapes qui nous restent encore à accomplir. En termes de gouvernance, cette révision donc était coordonnée par un comité de pilotage du PCAET qui était très large, avec bon nombre d'élus, mais aussi un certain nombre de personnes de la société civile, d'associations, de chambres consulaires, de services de l'État. Également un comité de pilotage spécifique à la démarche Citergie. Alors je reviendrai sur Citergie en fin de diaporama. Si le PCEET est un document réglementaire, Citergie, on est dans une démarche volontaire puisque c'est un principe de labellisation. Donc Vitré Communauté et la ville de Vitré ont travaillé ensemble pour un dossier commun. Et puis donc pour coordonner tout ça, un comité technique qui lui par contre intervenait aussi bien sur le PCEET que sur la démarche Citergie. Un retour rapide sur le premier PCEET. Avec deux objectifs principaux de ce PCEET, donc PCEET qui couvrait la période 2013-2017. Premier objectif, réduction de l'émission des gaz à effet de serre sur le territoire de 13%. Alors, le calcul des gaz à effet de serre est toujours un peu compliqué. Il n'y a pas forcément d'outils de mesure très performants. La courbe que vous avez en bas de la diapositive reprend les évolutions de consommation d'énergie, tant en gaz naturel qu'électricité. Ce sont des données qui sont faciles à obtenir puisque ce sont les distributeurs GRDF d'un côté et Enedis de l'autre et qui ont les chiffres d'une manière assez précise. Ce qu'on peut constater, c'est qu'entre 2010 et 2017, finalement, les consommations d'énergie sur le territoire sont restées relativement stables, même si le territoire a continué de se développer. Donc c'est un bon point. Pour autant, ça n'a pas permis de réduire l'émission des gaz à effet de serre de 13% objectif qui était fixé. Sur le petit diagramme à droite, vous avez les consommations d'énergie par typologie, en fait, en résidentiel, tertiaire, en transport, agriculture, industrie et déchets. On a là un rapport aussi immédiat entre les consommations et les gaz à effet de serre, à l'exception de l'agriculture, qui est le seul domaine où les gaz à effet de serre non énergétiques sont conséquents, voire majoritaires. Deuxième objectif du PCEET à l'époque, production de 23% d'énergie renouvelable sur le territoire. Diagramme de gauche, vous avez les prévisions donc pour obtenir les 23%. Et puis à droite, la réalisation. Et aujourd'hui, le territoire produit 11% d'énergie sur son territoire par rapport à l'objectif qui était envisagé de 23%. Quand on regarde le diagramme de droite, on voit la partie bleu clair qui correspond au développement de l'éolien, et qui est un élément qui a permis une évolution, ainsi que le bois déchiqueté, qui est la partie la plus importante. Sur la phase diagnostique, donc vous avez en pièce annexe de la délibération l'ensemble des documents qui reprend les différentes phases de réalisation du PCAET. Et la première phase, donc un diagnostic. Résumé en quelques diapositives, premier élément, consommation énergétique sur le territoire, 2288 gigawattheures, qui correspond à un montant de 225 millions d'euros par an. L'énergie importée sur le territoire correspond à 210 millions d'euros pour une production de 15 millions sur le territoire, uniquement en énergie renouvelable. Partie centrale, vous avez la répartition carburant, électricité et chaleur, avec des montants qui sont relativement conséquents. La caractéristique de ces 225 millions d'euros répartis, donc là, cette fois sur les typologies, les différentes typologies. Transport routier qui représente une part importante, suivie du résidentiel et puis de l'industrie. Cette énergie est sensible à la volatilité des prix du pétrole, bien évidemment. Donc l'enveloppe de 225 millions d'euros par an est susceptible d'évoluer de manière significative en fonction de l'évolution du coût de l'énergie, mais aussi en fonction de l'évolution de la fiscalité, en particulier de la taxe carbone. Pour revenir sur la production d'énergie renouvelable et de récupération, puisque ça intègre également l'usine d'incinération, vous avez là la répartition par type d'énergie. L'incinération étant un poste important, le bois énergie individuel, donc ce qu'on appelle le bois bûche et puis pelé, qui est aussi un poste important. Pas forcément facile à mesurer. D'ailleurs, vous voyez la donnée date de 2010, alors que sur d'autres secteurs, on a des données beaucoup plus récentes. Tout en bas, photovoltaïque, qui reste pour l'heure marginal, avec pour autant des possibilités de développement assez significatives, en fonction des prix de rachat, bien évidemment. Toujours dans le diagnostic, le bilan sur les émissions de gaz à effet de serre, 910 000 tonnes équivalent CO2 en 2010, avec une part donc de gaz à effet de serre d'origine énergétique. On retrouve là dans le camembert les parts transport résidentiel, industrie, agriculture, et une part sur les gaz à effet de serre non énergétiques, 53%, dont la majeure partie provient de l'agriculture et un tout petit peu de l'industrie. Ce qui est tout à fait logique compte tenu de la nature de notre territoire, fortement agricole et fortement tournée vers l'élevage. Donc l'agriculture avec 53% du total des gaz à effet de serre et pourtant ne produisant que de mémoire 5% de gaz à effet de serre d'origine énergétique. La séquestration carbone est relativement restreinte puisque 5% des émissions. Vous avez là dans le petit diagramme les tonnages carbone susceptibles d'être captés par les différentes natures de cultures entre les forêts et prairies. Et bien évidemment, plus on artificialise et plus on réduit nos capacités de stockage carbone en fonction donc des surfaces. 35 hectares par an aujourd'hui à peu près de sol artificialisé sur le territoire. Dernier élément du bilan, le volet R, puisque vous avez noté que d'un PCET, on est passé à un PCAET, donc la dimension R intègre cette fois le document. À votre arrivée, vous avez remis un petit fascicule émanant d'Herbraise, Vitry Communauté conventionnée avec Herbraise pour un suivi de la qualité de l'air. Vous retrouverez le petit diagramme de droite d'ailleurs dans ce document. Donc, ce document 4 pages vous reprend des éléments sur le territoire breton, mais aussi sur le territoire communautaire. Donc, vous avez une courbe à droite de l'évolution des gaz, des différents polluants entre 2008 et 2014. On voit une chute assez significative du soufre, dioxyde de soufre, lié entre autres à l'évolution des qualités de carburant et à une suppression du soufre dans les carburants. Pour le reste, les autres polluants ont tendance à baisser un peu, à l'exception de l'ammoniac NH3, qui progresse. Et dans le tableau de gauche, vous avez les origines et par nature de polluants. Là aussi, la nature de notre territoire plutôt agricole explique la part d'ammoniac issue du milieu agricole. Vulnérabilité du territoire et adaptation au changement climatique. Nous savons d'ores et déjà que les températures au cours du XXIe siècle vont continuer de monter avec une progression du nombre de journées chaudes et une réduction du nombre de jours de gel. L'année 2019 a été très claire sur le nombre de journées chaudes, on en a connu plusieurs. Une évolution dans les précipitations, avec probablement des volumes annuels qui ne vont pas fortement évoluer, mais un rythme de précipitation qui va être différent, et ça aussi on l'a vécu cette année. À l'heure actuelle, nous sommes à peu près à 850 mm pour l'année en cours, qui correspond à une année normale, voire même une bonne année. Sur ces 850 mm, il y en a 350 qui sont tombés sur le mois d'octobre et le mois de novembre. On voit bien qu'on a un décalage là dans les précipitations et quelque chose de beaucoup plus haché. Et donc ça se traduit par un assèchement des sols qui est aussi plus marqué en saison estivale, mais aussi en intersaison. Il arrive qu'au printemps, on ait des périodes de sécheresse. En termes de risque, le risque principal reste le risque d'inondation accrue sur le secteur Vitré et Châteaubourg, lié en particulier aussi au fait que nos précipitations sont aujourd'hui beaucoup plus hétérogènes. Le risque évolution des argiles sur notre territoire est peu important sur les gonflements et retraits d'argile. En termes d'enjeux, enjeu majeur au niveau de l'agriculture, puisque territoire fortement agricole, sur les cultures et l'élevage, puisqu'on va avoir de plus en plus d'allongements de périodes de sec et une réduction des périodes humides, qui va se traduire par des situations de stress hydrique pour les animaux, et puis bien évidemment stress hydrique aussi pour les cultures, ce qui se traduit par des difficultés en termes d'autosuffisance alimentaire dans des systèmes de pâturage. Autre enjeu majeur, c'est l'impact sur la ressource en eau. Le territoire est approvisionné en eau potable à raison de 98% sur des sources superficielles, on le sait bien avec les barrages, qui sont très dépendants des pluviométries et du rythme de pluviométrie. Les variations de pluviométrie entraînent aussi des capacités d'auto-épuration dans les cours d'eau qui sont moindres. Les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui avec les cyanobactéries, par exemple, sont aussi liées en partie au réchauffement climatique, avec le réchauffement des masses d'eau et le plus faible renouvellement de ces masses d'eau. Et puis enfin, bien évidemment, sur les ouvrages d'assainissement qui sont souvent en point bas, techniquement par gravité, la nécessité de les maintenir hors d'eau pour permettre une continuité du service qu'ils assurent. En termes de stratégie et de plan d'action, en passant par les enjeux du PCAET, bien évidemment, premier enjeu, la réduction de la facture énergétique. Tous ces enjeux découlent bien évidemment du diagnostic. Réduction de la facture énergétique du territoire, développement de la production d'énergie renouvelable sous les différentes formes, et on y reviendra dans le plan d'action. La prise en compte de la modification du climat et l'adaptation au changement climatique, en particulier pour l'agriculture, mais pas seulement, sur l'ensemble des activités économiques, sur l'habitat aussi. Ça nécessite une implication forte de l'ensemble des acteurs du territoire, qu'ils soient habitants, collectivités, associations, scolaires, entreprises, industrie, agriculture. Même si le PCAET est porté par la communauté d'agglomération, tous les acteurs doivent s'impliquer, puisque les marges de manœuvre de la collectivité sur un certain nombre de secteurs sont très limitées. Et c'est là où les chambres consulaires, entre autres, ont des cartes à jouer et doivent accompagner la collectivité dans la réalisation de ce PCAET. bien évidemment, ça passe aussi par l'intégration des volets air, énergie, climat dans les différents documents de planification et dans les orientations de Vitry Communauté. Enfin, en interne, ça nécessite une mobilisation aussi forte des différents services pour que ces différentes dimensions soient intégrées dans l'ensemble des projets de la collectivité. Les principaux objectifs du PCAET, qui va couvrir la période 2020-2026, donc on est sur un PCAET de 6 ans. Une réduction des consommations d'énergie de 20% d'ici 2030. Alors, ces différents objectifs, ils ressortent en particulier de séminaires et des différents ateliers. Et on se cale aussi sur les objectifs nationaux. La petite difficulté, c'est qu'on se retrouve avec des échéances qui ne sont pas toutes les mêmes, puisque PCAET, on va travailler sur 6 ans, et objectifs nationaux, on est sur 2030, voire 2050. Donc 20% de réduction de la consommation d'énergie. Par expérience du premier PCET, on sait que l'enjeu est ambitieux et qu'il va falloir se remonter les manches. Réduction de 24% des émissions de gaz à effet de serre. On est en lien direct avec la réduction des consommations d'énergie, bien évidemment, mais pas que. La question des gaz à effet de serre non énergétiques se pose. Production d'énergie renouvelable, couverture de 31% des besoins de nos consommations d'ici 2030. Je vous rappelle qu'on est à 11% aujourd'hui, donc là les efforts sont conséquents si on veut être dans les clous. Et puis réduction des différents polluants, donc là il y en a un qui est pris en exemple, réduction de 25% des oxydes d'azote d'ici 2026. Bien évidemment, la réduction des polluants, elle est liée à l'ensemble des deux autres actions. Si on réduit les consommations d'énergie, on va aussi automatiquement réduire les émissions de polluants. Le plan d'action du PCET s'organise en 8 grands thèmes et 38 fiches actions. Alors, le dispositif est un peu imbuvable. Si on le prend dans le sens des aiguilles d'une montre, à partir du document central, du rond central, pardon. Première thématique, exemplarité des collectivités. Nous devons, au terme des collectivités, être exemplaires et dans les actions de transition énergétique sur le territoire, affirmer des positions fortes pour pouvoir atteindre les objectifs définis. Dans le niveau agricole, l'objectif est là, une agriculture résiliente et orientée plus vers l'alimentation locale. Le secteur bâtiment est un élément important. Il y a déjà de nombreuses actions qui sont engagées, mais le travail est encore important. Et là, on a, par rapport à la transition énergétique, énormément de cartes à jouer, tant dans la réduction des consommations, donc pour le confort d'hiver, mais aussi à travailler sur le confort d'été pour faire face au changement climatique. En termes de mobilité et d'aménagement, donc là, c'est vraiment incitation de nouvelles pratiques dans les modes de déplacement. Travailler sur la biomasse pour augmenter le stockage carbone, ça passe entre autres, par exemple, on verra tout à l'heure, sur le développement du bocage et le stockage du CO2 au travers de ces éléments-là. Production d'énergie, volet important aussi, pour atteindre les 31% fixés à l'objectif. Et là, il faudra aller dans toutes les directions, que ce soit la méthanisation, le photovoltaïque, l'éolien, la biomasse, le bois. Enfin, bon. Sur les activités économiques également, pour faire en sorte que le développement du territoire puisse se poursuivre avec un rapport à l'énergie basé sur l'efficacité et la modération dans l'industrie. Et puis enfin, bien évidemment, la dimension environnementale. Toutes les actions qu'on va engager doivent pouvoir concourir à une préservation et une amélioration de l'environnement. Lors de votre arrivée, vous avez été remis un petit fascicule qui reprend les 38 actions du plan d'action. On ne va pas décliner les 38 actions ce soir. On en a sélectionné 12, je ne vais peut-être pas les prendre les 12 non plus, mais en prenant quelques-unes dans chacune des thématiques. Sur la première thématique, animation mise en œuvre du PCAET, la première action, on en a déjà parlé lors d'un bureau communautaire, c'est le renforcement du poste de CEP. Donc le poste de CEP destiné à accompagner les communes adhérentes dans leur projet de rénovation, de maîtrise de l'énergie sur votre territoire. Aujourd'hui, le service doit être développé pour aller encore plus loin dans les actions et dans la maîtrise de l'énergie sur les communes. Action AN6, intégration de critères à impact écologique positif. L'idée là, c'est par une incitation financière, alors dans la définition de critères pour attribution de subventions, inciter l'ensemble des acteurs à s'interroger sur les projets et à intégrer une dimension environnementale. Et donc ça, c'est tous les acteurs susceptibles de recevoir des aides des collectivités. Dans le domaine exemplarité, AN9, mise en place d'un plan de déplacement administration. En tant qu'administration, on se déplace beaucoup, on a un parc auto conséquent. Il convient là aussi de se poser des questions sur les modes de déplacement en interne, mais aussi dans les liaisons domicile-travail de l'ensemble des salariés de la collectivité. Illustration sur le volet agriculture-alimentation. Là, c'est comment soutenir le développement des démarches qui sont déjà en cours de développement en faveur de l'autonomie des exploitations et de réduction des consommations d'énergie et des productions de gaz à effet de serre. Là, on sort du domaine de compétences de la communauté d'agglomération. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous disais, l'ensemble des acteurs du territoire doivent être mobilisés. C'est l'illustration. Seul sur le volet agricole, la collectivité ne pourra pas forcément faire grand-chose. Donc on doit être coordonnateur, poussé, incité, mais chacun doit pouvoir se prendre en main. Au niveau du secteur bâtiment, poursuite et intensification des travaux de rénovation énergétique en direction du particulier. On a aujourd'hui au niveau de la maison du logement l'équivalent de ce qu'on fait au niveau du CEP pour les collectivités avec un accompagnement en direction des particuliers. Cette action-là doit être poursuivie. Il y a encore nombreux bâtiments, nombreuses habitations qui méritent et qui doivent être rénovées. Dans le volet mobilité et aménagement, le plan de mobilité, la réalisation d'un plan de mobilité est déjà d'actualité. Les choses vont bouger. Le schéma directeur cyclable est lancé. Dans ce volet mobilité, on sait que sur les 6 prochaines années, normalement, de nombreuses actions doivent pouvoir se mettre en place. Biomasse, j'ai évoqué la question de la valorisation et du développement du bois bocage. C'est l'action principale Bresse-Bocage qui est en cours. Mais outre le développement, il faut réussir à travailler sur une filière de valorisation du bois bocage qui peut-être manque encore sur notre territoire. Production d'énergie, une illustration au travers le projet de centrale photovoltaïque sur le site de l'ancienne décharge. C'est des projets qui sont longs à mettre en œuvre, qui sont tributaires en particulier des conditions de rachat de l'énergie. Le projet évolue et je pense que devrait pouvoir voir le jour à moyen terme, entre autres par un regroupement de projets de même nature sur différents territoires pour être plus efficace en lien avec le SDE. Mais dans cette thématique production d'énergie, encore une fois, il va falloir travailler vraiment dans toutes les directions, même si on sait qu'il y a un certain nombre de projets qui peuvent être longs à mettre en place. Je pense entre autres au projet de méthanisation, par exemple, ou au projet d'éolien. Sur l'activité économique, tout à l'heure je faisais référence au CEP et puis à l'accompagnement des particuliers. Au cours des ateliers, il est ressorti un besoin d'accompagnement aussi du monde de l'industrie et dans les activités économiques où les entreprises n'ont pas forcément les ressources en interne pour pouvoir les accompagner sur ces domaines-là. Donc on pourrait imaginer la mise en place d'un espèce de CEP entre guillemets en direction des entreprises sur un schéma qui reste à imaginer. Là aussi, la collectivité, sur l'action suivante, travaille en partenariat avec le SMICTOM sur le projet territoire économe en ressources qui est conduit donc par le SMICTOM. Et puis enfin, sur le volet environnement, on a parlé tout à l'heure un peu de la qualité de l'air. Le suivi, la sensibilisation à la qualité de l'air est un sujet qu'il faut travailler. Donc la relation avec Air Braise est un élément. La mise en place d'outils de mesure sur le territoire est un autre élément. Mais au-delà de ça, il y a une action de sensibilisation en direction du public qui est indispensable. On entend souvent, nous on est à la campagne, il n'y a pas de problème de pollution de l'air. Contrairement à ce que les gens en pensent, on est aussi confronté sur le territoire au problème de qualité de l'air, en particulier en matière de particules fines qui n'ont pas de frontières territoriales. Voilà un résumé très très rapide d'une douzaine d'actions. Donc vous avez l'ensemble des 38 actions qui, dans le document qui vous a été remis et que je vous invite à découvrir. La mise en œuvre du plan d'action passe par donc, la mise en place d'instances de gouvernance. Et l'idée, c'est de repartir sur les mêmes instances que pour la phase de révision du PCAET, à savoir un comité de pilotage, un comité technique, une équipe projet, avec une volonté donc, de communication régulière en direction du bureau communautaire, qui est une instance élue, et, mais aussi en comité de direction au niveau de l'instance administrative, de manière à ce que le soufflet ne retombe pas. En termes de moyens, la labellisation Citergie, donc je vais y revenir juste après, nous amène à un suivi annuel avec le bureau d'études qui nous a accompagnés pour la révision du PCAET. Et donc on aura un certain nombre de points tout au long des quatre années qui vont venir, avec une évaluation des résultats, et c'est l'élément important, qui a peut-être manqué dans le premier PCET. En complément, donc, la fiche action AN8 prévoit justement les moyens de suivi du plan d'action. Et puis la plateforme Linéa 21, donc là c'est une plateforme numérique de recueil de données, et justement qui doit nous aider dans le suivi de la mise en place du plan d'action. Un petit focus sur la labellisation Citergie, qui est une démarche volontaire, qui a été conduite donc par Vitry Communauté et Vitré. On est sur un label européen qui est porté au niveau national par l'ADEME. Les thématiques qui sont analysées là, il y a 6 thématiques. Vous avez là, sur le graphique de gauche, les notes qui ont été obtenues donc, par les deux collectivités cumulées. Pour obtenir le premier label qui s'appelle donc Cap Citergie, il fallait avoir atteint globalement 35% des notes possibles du référentiel. Au terme de l'état des lieux, nous arrivons donc à 40%, ce qui a permis l'attribution du label Cap Citergie, qui vient d'être attribué, puisque vous avez le joli petit diplôme au milieu, dont la remise sera faite officiellement lors des Assises européennes de l'énergie à Bordeaux fin janvier 2020. L'objectif à 4 ans, c'est d'atteindre 50% du référentiel pour atteindre le label Citergie cette fois. Le dernier label tout en haut, le Gold Citergie, il faut avoir atteint 75% du référentiel. Aujourd'hui, il y a assez peu de collectivités qui l'ont. Il y en a deux, la communauté urbaine de Dunkerque et la communauté de Besançon. Donc ça, c'est un outil intéressant parce que c'est un véritable outil de mesure des actions conduites par les collectivités. Donc là, on est vraiment en interne sur les collectivités, mais avec des indicateurs assez faciles à suivre et qui doivent être des outils pour nous motiver. Dernier point du PCAET, évaluation environnementale. Je vais aller vite. Le principe, c'est de mesurer quelles sont les incidences du PCAET sur l'environnement. Toutes nos actions ne sont pas forcément complètement vertes, et donc il était important de passer toutes ces actions à la moulinette pour vérifier si les incidences étaient positives ou s'il y avait des points de vigilance, voir s'il y avait des incidences négatives. Sur les 38 actions, il n'y a pas d'incidence négative, pour autant il y a un certain nombre de points de vigilance. Et donc dans la mise en œuvre de ces actions, eh bien, il y a une attention toute particulière. Illustration par exemple sur les chaufferies bois. Si l'incidence elle est intéressante en termes d'utilisation d'énergie renouvelable et de faibles émissions à gaz à effet de serre, on sait qu'on produit des particules fines. Donc on a un impact pas trop favorable sur la qualité de l'air. Ça peut être sur d'autres domaines, sur la production de déchets ou sur des éléments liés à la biodiversité ou au paysage. Prochaines étapes. Conseil communautaire ce soir, approbation du PCAET. Une fois approuvé, celui-ci sera transmis à l'autorité environnementale, au préfet et à la région pour avis. Prise en compte ensuite des avis de l'autorité environnementale, de la préfecture et puis de la région, pour ensuite une consultation publique avec à nouveau prise en compte, s'il y en a, d'avis du public pour enfin finaliser la version donc, du PCAET. Cela doit nous emmener j'espère, au premier semestre, enfin avant la fin du premier semestre 2020. Et donc comme indiqué Madame Clouet, c'est le cabinet Intermezzo qui nous a accompagnés tout au long de cette phase de révision, et puis donc de Jean-Pierre Ferrand pour la partie environnement et entre autres évaluation environnementale du PCAET.
Bien, merci Philippe. Globalement, on constate que c'est un enjeu de taille pour les prochaines années. Et nous devrions être aussi ambitieux dans ce domaine que nous l'avons été pour l'emploi. Ça suppose un sacré effort de pédagogie et de mobilisation des communes, des collectivités, mais aussi des entreprises, des associations et des écoles. Je pense que nous sommes là devant une vraie question, Nathalie. Et la première mesure pour voir ceux qui ont les bonnes pratiques, moi je proposerais que cet été, quand on fait le déplacement annuel de formation des élus, nous allions dans le pays du Ménet. C'est celui qui, en Bretagne, a fait le plus d'efforts d'autonomie énergétique. Je pense que ce serait un symbole qui nous oblige. Donc, à partir de cela, il y aura des fiches qui seront envoyées, une série de réunions de commission, Nathalie, mais nous sommes devant un enjeu de taille, et je crois que Vitré doit être à 5-10 ans une référence dans ce domaine. Est-ce qu'il y a des questions? Bien entendu, vous avez une vue d'ensemble. On y reviendra à plusieurs étapes au cours de l'année 2020. Sans moi. Teddy me regardait, alors. Mais je resterai passionné. Je suivrai les problèmes du développement du pays de Vitré. Est-ce que vous avez des observations spécifiques, globales? Je crois que ça va être traîné en fiche, en pédagogie, et ensuite oui, alors, voir comment chacun peut apporter sa participation. Oui.
En complément donc de la délibération, en annexe, vous avez l'ensemble des différents éléments, donc diagnostics, etc., et en particulier donc le plan d'action, qui est peut-être le document le plus concret, avec les 38 fiches actions qui sont déclinées. Si vous le consultez, vous verrez que toutes les fiches actions ne sont pas arrivées au même degré de finalisation. Il y a encore du travail dans l'élaboration des fiches actions, dans le complément. Et bien évidemment, le plan d'action, il n'est pas fermé. Il est ouvert à s'enrichir d'autres fiches actions s'il y a d'autres idées, s'il y a d'autres productions et pourquoi pas poursuivre. Mais déjà, 38 fiches actions, c'est ambitieux. Il y a de quoi faire, mais il est amendable, bien évidemment.
Alors, dans cette perspective, on a une bonne nouvelle.
Oui, je voulais le rajouter, ça.
Comment ?
Monsieur Ménery.
Oh, pardon, oui, Nathalie.
Je voulais le dire. C'est effectivement, le développement des énergies renouvelables, c'est assez compliqué sur le territoire. Et je voulais dire notamment aux maires des communes qui sont présentes ce soir-là qu'on a eu une bonne nouvelle cette semaine, que le projet des éoliennes de Montautour, Princey, Châtillon-Vaudelin, qui était remise en cause pour un avis de l'armée. Donc, grâce à l'intervention de M. Ménery, l'armée est revenue sur sa décision et on va pouvoir faire un dossier avec des éoliennes de 150 mètres en bout de palme. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'un projet éolien comme ce projet-là, c'est 2% en plus d'énergie renouvelable sur le territoire. Et c'est notre principal levier sur le territoire. Donc, effectivement, c'est une très bonne nouvelle pour le territoire.
On a obtenu ça hier soir du colonel Vautrin, en nous annonçant qu'à 90 mètres, on n'avait pas de rentabilité. À 150 mètres, on peut faire quelque chose de sérieux sur Châtillon, Princey, Montautour. Donc, on y va avec Volvé. J'ai averti avec Nathalie Volvé.
Oui, c'est une bonne nouvelle parce que même le développeur qui travaille avec nous, c'est Volvé. Il était très étonné du changement d'avis de l'armée. Donc, non, c'est une très bonne intervention du président. Voilà, merci.
Alors, oui.
Je J'avais une toute petite interrogation en point de vigilance. J'ai lu que la rénovation énergétique était un point de vigilance. Certes, il y a des progrès encore à faire, mais depuis quelques années, la rénovation énergétique, dans le cadre des aides de l'ANA, a été multipliée par 3 oui. au niveau du nombre de résidences, de résidences rénovées et par plus de 2 en enveloppe.
Oui, tout à fait.
Donc, je crois qu'il y a des efforts réels qui ont été faits.
Et d'ailleurs, il y a une fiche action qui propose d'aller encore plus loin.
Oui.
Par contre, le point de vigilance, en fait, c'est par rapport à l'impact environnemental. Si l'impact environnemental sur la rénovation du bâtiment est très positif sur la question de la consommation d'énergie et donc de rejet de gaz à effet de serre, elle produit du déchet. Et donc, il faut s'interroger sur comment on traite ce déchet. Elle peut avoir une incidence sur la biodiversité, par exemple, sur la réduction des habitats d'un certain nombre d'oiseaux, par exemple. On a vu à une période, lors de rénovation d'habitat, les nids d'hirondelles être supprimés, alors qu'on est sur une espèce protégée. Donc, en point de vigilance, quand on est sur le point de vigilance, c'est vraiment ça, c'est de dire toutes les actions, même si à un moment elles sont bénéfiques pour, globalement pour l'environnement, où faut-il faire attention dans la manière de réaliser ces opérations.
Oui, j'ai bien compris que c'était plus dans le moyen de chauffage qu'il y avait méthode, qu'il y avait vigilance à avoir.
Aussi.
Alors que le premier point donc je voulais signaler, c'est d'abord de réduire les besoins.
Non mais tout à fait,
ce qui a été fait au niveau de Vitry Communauté.
Ça ne remet pas du tout en cause l'action, et au contraire, elle demande
d'être complémentaire.
Tout à fait.
Donc il est important que nous ayons les 50 indicateurs là pour voir que ce que chacun pourra apporter en fonction de ces indicateurs, y compris en matière d'agroécologie. Est-ce qu'il y a d'autres observations compte tenu de l'heure? Mais vous voyez bien le travail qui est devant nous. Merci. Alors, je mets aux voix les bilans, les premiers PAC et les orientations. Ceux qui sont favorables veulent bien lever la main. Merci. Abstention, vote contre, il n'y en a pas. Donc, on continue à bon rythme les autres dossiers. C'était le plus important de la soirée.